Qui a mis les mots livre et libre dans le même bateau? Qui a dit que libère en latin faisait des cousins? En fin de semaine dernière, on en a peu parlé, la journaliste et romancière Asli Erdogan a récupéré son passeport. Nouveau rebondissement d'une indigne saga qui l'a fait arrêter, emprisonnée pendant 132 jours, puis remise en liberté sous contrôle judiciaire pour avoir défié par ses écrits le pouvoir en place en Turquie. Alors qu'on lui autorise désormais à demander un visa pour recevoir ses prix à l'étranger, son procès est loin d'être terminé. Autant pour la liberté, car il se peut que le livre parfois vous en prive de liberté. Peut-être avez-vous entendu parler, ou pas, d'un livre qui s'intitule « Du soleil sur des fenêtres fermées ». C'est un livre collectif, une anthologie de textes signés de 25 jeunes écrivains libyens qui vouent à ses auteurs aujourd'hui des menaces de mort. Les voici poursuivis, condamnés au fouet, sans autre forme de procès, pour une scène érotique jugée obscène. Il arrive qu'un livre épris de liberté ne provoque que de la haine. Qui a mis les mots livre et libre dans le même bateau, à l'heure où l'on est encore emprisonné, pas si loin d'ici, pour des mots, pour des écrits? Et faut-il qu'on en soit épris de liberté pour en arriver à faire abstraction de la sienne, aujourd'hui?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel livre ont rendu libre mon invité d'aujourd'hui? Il est écrivain et recevait il y a un peu plus de 2 ans le concours du premier roman pour Meursault contre enquête. Son deuxième roman Zabor ou Les Psaumes vient de paraître. Il nous raconte l'histoire d'un jeune Algérien paria, poète et prophète, doté d'un étrange pouvoir. Les histoires qu'il écrit sauvent des vies. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. À quel moment un livre peut priver de liberté?
À partir du moment où il parle de liberté, pour faire très court, à partir du moment où il affirme une singularité, une liberté, une marge, une distance, une vie, un individu.
Pas n'importe où, encore heureux?
Justement, il y a 2 sortes de territoires. Le territoire où le roman est un loisir, ou le territoire où on se pose la question, est-ce que le roman est possible? Est-ce que la fiction est possible? Et combien elle coûte? Et qu'est-ce qu'elle coûte?
Dans quel territoire est-ce que vous écrivez, vous?
Moi, j'écris en Algérie, en règle générale, chez moi, un peu partout, mais dans le monde dit arabe et dans d'autres pays du Maghreb.
Qu'est-ce qu'ils représentent, les livres, pour vous, Kamel Daoud? Et j'insiste sur le pluriel, les livres.
Le salut, la possibilité de partager l'intimité du monde, une sorte d'intimité universelle, relativiser mes croyances, prendre de la distance, voyager. Mais la lecture, pour moi, était salutaire. Et j'insiste sur le mot, mais vraiment sur le sens brut du mot, salut.
En ceci, est-ce que vous diriez que les livres, quels qu'ils soient, s'opposent à un livre sacré, au singulier?
Éternellement. Le livre descend du ciel ou monte du palais d'un dictateur, c'est la même chose. Le livre rouge, le livre sacré, le testament, l'ancien, le nouveau, celui qui est à venir. La littérature, les livres s'opposent toujours à un livre qui veut s'accaparer la parole.
Ça voudrait dire que tous les livres sont sacrés?
C'est ce que dit Zabor à un moment. Je me bats pour que tous les livres soient sacrés.
Le Coran, Kamel Daoud, quel livre est-ce que c'est précisément pour vous?
C'est le livre des ambiguïtés humaines. Vous savez, les livres sacrés sont à l'image de l'homme. Ils sont porteurs à la fois de ce qui est sublime, de ce qui est monstrueux, de ce qui est violent, etc. Les dieux sont à notre image. Vous voyez les dieux grecs, vous voyez les dieux du monothéisme, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire, les textes sacrés ne sont que des prétextes à la fin. Les dieux, c'est nous qui les faisons parler, c'est nous qui les sculptons, c'est nous qui les portons.
Je vous pose la question, hein, parce que il se trouve que Zabor, qui est le nom de votre héros et qui donne son titre à votre roman, c'est aussi le titre d'un des 3 livres qui précède le Coran. C'est donc d'un livre sacré dont vous proposez en creux la réécriture?
Pas uniquement. Il y a un très beau proverbe dans le Maghreb qui dit « À qui tu vas raconter tes psaumes? Oh David !» David, c'est Daoud, quelque part. Et j'ai joué avec ce petit vertige un petit peu narcissique. Mais en même temps, ce proverbe dit « Qui va vous croire? Qui va te croire? Tu presses dans le désert, tu en avances sur ton temps ou peut-être en retard, etc. » Donc il y avait ce jeu-là. Mais en même temps, les psaumes, pour moi, c'était cette possibilité d'exprimer la sacralité de la littérature. C'est surtout ça.
Se peut-il que ce geste littéraire, Kamel Daoud, soit considéré comme un geste blasphématoire?
Oui. Toute littérature est blasphématoire vis-à-vis de radicalisme, d'utopisme, etc. On l'a vu avec le fascisme du XXe siècle, on le voit avec les nouveaux fascismes théologiques, etc. Donc tout exercice de liberté d'affirmation est blasphématoire.
C'est ça que ça veut dire blasphémer pour vous, qui est toujours, je le rappelle, sous le joug d'une fatwa en Algérie?
On l'est tous sous le joug d'une fatwa, je veux dire, celui qui s'attable à une terrasse, le petit touriste qui va en Tunisie. Enfin, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit propre à l'écrivain. Bien sûr que c'est symbolique quand il s'agit d'un écrivain ou d'un artiste ou d'un politique. Mais en même temps, c'est la moitié du monde qui est sauvatoire, pas uniquement moi, donc je ne me mets pas en avant.
On parlait de réécriture, Kamel Daoud, et ce qui est passionnant, c'est que c'était déjà le cas avec votre précédent livre Meursault contre enquête, qui pouvait se lire comme une réécriture de plusieurs livres de Camus, à commencer par L'étranger. Pourquoi est-ce qu'écrire un livre, c'est toujours un travail de réécriture pour vous?
Parce que je suis un lecteur frustré, parce que j'ai manqué de livres, parce que j'avais envie toujours de continuer de lire des livres que je n'ai pas eus. Mais en même temps, c'est une façon de se libérer des grands textes. Il y a de l'admiration et de l'insolence, il y a de la liberté et de l'affirmation. J'ai envie de reprendre parole, mais vraiment de reprendre parole par rapport à des livres qui se sont accaparés cette parole.
Leur répondre ?
Leur répondre, leur tenir tête, prier sans baisser les yeux, comme dit Zabor, réfléchir par moi-même. Vous savez, au fond, l'enjeu, c'est nous. C'est nous. Ce ne sont ni les dieux, ni les demi-dieux, ni les anges, ni les démons. Eux, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de. Ils ne meurent pas. Ils ne naissent pas. Donc l'enjeu, c'est nous. Le droit à la parole, c'est le nôtre.
Dans Zabor, vous racontez comment votre héros, avide de lecture, qui grandit dans un environnement où les livres sont rares, pour ne pas dire absents, réécrit des grands classiques de la littérature, comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, comme La Promenade au Phare de Virginia Woolf, et bien d'autres, simplement à partir de leur titre. C'est du vécu, ça ?
C'est du vécu. Vous savez, les places de vacances de 3 mois dans un village sous-sali des années 70-80 en Algérie, c'est quelque chose de terrible. C'est une vie de centenaire alors que vous avez 10 ans. Donc, je lisais des romans, je les relisais encore. Il y a des romans que j'ai lus 10, 12, 13 fois. Parce que bon, je n'avais pas autre chose à faire. Mais en même temps, il y avait à la fin toujours cette page-là où on avait des titres apparaître. Et puisque je n'avais pas ces romans, je les imaginais.
Et alors, quand vous les avez lus, les originaux ?
Parfois, j'étais déçu. Ma version était meilleure.
Non, vraiment ? Sérieusement, meilleure que La Promenade au Phare de Virginia Woolf ? Ça me paraît impossible.
C'est possible pour un gamin de 13 ans, mais lire, par exemple, imaginez une histoire qui a pour titre Le Seigneur des Anneaux. Le titre est magnifique. Cristal qui sent, c'est quelque chose de sublime. Mais quand on lit un petit peu, bon.
Votre histoire du Seigneur des Anneaux, elle parlait de quoi ?
Je l'ai dit dans un bord, c'est quelqu'un qui vendait des bagues un peu partout dans le monde.
Si vous n'aviez pas rencontré les livres, Kamel Daoud, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, à votre avis ?
Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans les livres. Je pense que ça aurait été une vie, entre guillemets, monocorde, avec un seul son, avec un seul sens, fermée, désastreuse, triste, mais pas riche. Je n'arrive même pas à concevoir cette vie de cadavre.
Il y a quand même cette idée d'une soif d'absolu perpétuelle quand on vous entend, quand on vous lit. En ce sens, la littérature, est-ce que c'est une religion ?
C'est une religion. Mais c'est une religion quand même généreuse. C'est-à-dire, elle vous demande de laisser de côté votre corps quand vous lisez, mais pas de le rejeter, pas d'en avoir honte. Et puis, c'est une sorte d'exercice à l'au-delà, mais sans la mort. On lit, on est dans l'au-delà, mais après on revient et on ressuscite et on reprend sa vie quotidienne. La littérature, c'est une religion sans l'abandon du corps et sans au-delà.
Et devant laquelle on prie sans baisser les yeux.
Exactement.
Celle qui est à la fois catholique, musulmane, juive, protestante, parfois même raëlienne, dans cette émission, c'est la culture, figurez-vous, et son actualité très ouverte. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 12 septembre ?
Pour la première fois, la Ligue arabe se sont réunis, ils étaient d'accord pour interdire un film. J'étais en train de me raser ce matin, je me suis dit, finalement, Ziad Doueri, il a unifié les Arabes.
Pas sûr que ça l'ait fait beaucoup rire cette fois. Ziad Doueri, tout juste primé à la Mostra de Venise, le cinéaste franco-libanais, a comparu hier devant un tribunal militaire de Beyrouth. On lui reprochait d'avoir tourné son film L'Attentat en Israël en 2012, ce qui est interdit car les deux pays sont toujours officiellement en guerre. Après 3 heures d'audience, Ziad Doueri est toutefois ressorti libre. Le coupé décalé endeuillé, Philippe Michel, Siéhi Hiro, alias Don Mike, le gourou, star du coupé décalé, c'était un dimanche à Abidjan, il avait 51 ans seulement, maître des nuits ivoiriennes. Don Mike avait notamment inventé le concept de la prudencia, genre d'appel à la prudence en musique dans un pays ravagé par une crise politico-militaire entre 2002 et 2011. Ciao patron. Cela sera à jamais notre dernier concert en tant que A Tribe Called Quest. C'est ce qu'a déclaré sur scène samedi soir Q-Tip, le leader du mythique groupe de rap new-yorkais. Un concert comme un dernier barreau d'honneur après 30 ans de carrière et la perte en mars dernier de l'un de ses membres fondateurs. Mais qu'on se rassure, Q-Tip l'assure, il y aura bientôt des surprises. Will they kick it? Yes, they will.
J'avais pour projet d'aller consulter des manuscrits à la bibliothèque d'Alexandrie.
Merci, bon appétit. Mon avion nous attend sur la côte. Il y a de la place pour tout le monde.
Plus besoin de prendre le bateau pour consulter les archives d'Alexandrie, car la BNF, en collaboration avec 8 institutions implantées au Proche-Orient, ouvre aujourd'hui le site Bibliothèque d'Orient, un portail qui donne accès à près de 7000 documents patrimoniaux, comme des manuscrits, des dessins, des photographies venues d'Alexandrie, donc, mais aussi du Caire, d'Istanbul ou de Jérusalem. On a main. Kamel Daoud, invité de Boomerang ce matin pour la sortie de son deuxième roman Zabor ou Les Psaumes, un livre où vous racontez, Kamel, l'histoire d'un garçon qui vit dans un petit village et qui est rejeté par son père. Ce garçon, il est chétif, il fait ce qui ressemble à des crises d'épilepsie et il va se guérir grâce au livre et à son apprentissage de la langue, de l'arabe littéraire et surtout du français. Quel choc est-ce que ça a été pour vous la découverte du français, il faut nous raconter?
C'est une découverte érotique, sensuelle, sexuelle. La langue française, pour moi, c'est une langue qui a un sexe. Et la première découverte, ça s'est opéré, cette magie, par la magie du corps. Il y avait j'avais découvert des romans avec des couvertures de photos de femmes très sensuelles, très, vous savez, les romans policiers à l'ancienne, anglais ou américains. Et c'est à partir de là que j'avais ce désir d'apprendre cette langue. Parce que plus je maîtrisais cette langue, plus la femme était nue.
Est-ce que vous aviez perçu à l'époque que lire en français relevait aussi de l'acte politique?
Non, mais de l'acte peut-être honteux, sexuel, dissident. Parce que vous savez, j'étais élevé par mes grands-parents, ils me voyaient lire. Pour eux, quelqu'un qui lit, c'est quelque chose de sacré, donc c'était l'école. Alors que moi, je lisais des passages érotiques. J'étais dans cette sorte d'ambiguïté honteuse, délicieuse, de la découverte de la sexualité.
Et comment est-ce que vous l'avez appris au point de le maîtriser parfaitement et d'en faire votre langue d'écriture?
Par recoupement, par enquête policière, j'ai composé mon dictionnaire. C'est-à-dire, je prenais une phrase où il y avait quatre mots, je comprenais deux et les deux autres suivants, non. Mais après, je recomposais avec la deuxième phrase qui pouvait éclairer le sens du premier, etc. C'était une véritable enquête policière. Et puis, il y avait des mots qui persistaient. Le style, c'est cette façon de... C'est un attentat contre le dictionnaire, quelque part. Et c'est cette façon de recomposer les mots. Jusqu'à maintenant, je tiens à des mots qui n'existent pas. Par exemple, j'aime bien dire la chair de l'orchidée, c'est plus sensuel. La chair de l'orchidée, c'est sec. Ça ne sonne pas.
En ce sens, est-ce qu'écrire des romans en arabe, c'est possible?
Pour moi, vous. Je suis bilingue, je peux écrire dans les deux langues.
Mais il n'y aurait plus cette sensualité.
Si, alors justement, il fallait démanteler et remonter cette langue, la sortir du sacré, la sortir un petit peu de l'usage politique, parce que c'est une belle langue qui parle un petit peu du monde aussi, qui a un patrimoine extraordinaire. Donc, c'est juste faire en sorte qu'elle puisse rêver et non pas discourir.
Il sera traduit, d'ailleurs, votre livre en arabe, Kamel
oui,
Daoud.
La traduction est en cours.
Parce que je sais qu'il est déjà sorti en français au Maghreb.
Oui, effectivement.
Ce qui est passionnant dans le livre, c'est que pour Zabor, votre héros comme pour vous, la découverte de la langue française est indissociable d'un éveil à la sexualité. Cette nouvelle langue, vous dites qu'elle déshabille les corps. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, déshabiller les corps?
Ça veut dire que lorsqu'une femme nue est décrite dans un roman et que vous compreniez sur 10 mots, vous en comprenez 4, donc l'image est un peu floue. Si vous comprenez sur les 10 mots, vous décodez 9 mots, le grain de la peau se dégage, la courbe devient plus précise, la couleur des yeux, vous avez cette femme, ce corps qui est incarné. Donc plus vous maîtrisez la synonymie, plus vous avez accès, vous déshabillez ce corps et plus vous approchez de la jouissance.
Vous savez que moi je suis un barthésien convaincu que pour moi le texte jouit. Est-ce qu'il vous est arrivé d'éprouver une jouissance en lisant un livre?
Ah bah, je suis à peu près, je suis passé par le même chemin que Rousseau qui parlait de livres qu'on peut lire avec une seule main.
Quel livre, quelle langue?
En français, mais beaucoup de livres traduits, de textes érotiques du 18e, 19e siècle, etc.
Qu'est-ce qu'il y a de si jouissif dans la langue française, Kamel Daoud?
La conjugaison.
Et qu'est-ce que vous cherchez à provoquer, vous? La jouissance aussi?
J'aime l'intelligence légère, j'aime la métaphore qui soit juste, enfin, il faut qu'elle soit juste. J'aime le style en ceci qu'il faut qu'il soit en même temps sévère, dur, mais précis et net. Et je cherche cette alliance entre l'intelligence légère et le ludique et la jouissance.
Alors je vous propose cette intelligence légère, du ludique, de la jouissance, ça c'est sûr, une jouissance du mardi, la voix de Leonard Cohen en 1967. Hey, that's no way to say goodbye. Vous êtes sur France Inter avec Kamel Daoud. Vous écoutez Boomerang, mardi matin.
I love you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new in city. And in forest they smiled like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. It's many love before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est-à-dire que malgré son sérieux, son débit impressionnant, sa langue précise, fulgurante, poétique, il ne trompe personne. On est quelque part entre Papa Ours, Winnie et Paddington. Son chapeau rouge, évidemment. Et n'allez pas croire que ce soit un ours mal léché, Nenny. On lui tendrait volontiers une boucle d'or, un pot de miel ou un parapluie pour se gratter le dos, grand et élégant, chemise, pull bleu et veste. L'écrivain Kamel Daoud, invité de Boumang ce matin, et à en juger par son regard, je ne sais pas s'il est d'accord. Si je vous compare ce matin à un petit ours de fiction, de fable ou de conte, c'est évidemment pas pour vous contrarier, hein, tout a un sens dans cette émission. Il se trouve que Zabor, votre dernier livre, c'est un conte. Pourquoi cette forme? Qu'est-ce qu'elle vous permet, Kamel Daoud?
Elle permet d'être sincère. C'est-à-dire, la fable, ce n'est pas un roman de fiction, c'est la fiction d'un roman. C'est-à-dire, en inverse. C'est-à-dire, je dis sous cette forme-là, je ne vous trompe pas, je prends une forme artificielle, mais pour vous dire quelque chose de très vrai.
Que vous imposez du début jusqu'à la fin?
Oui.
Et puis, mine de rien, en adoptant cette forme, vous rendez aussi hommage à d'autres contes. Vous procédez à votre façon. On parlait de réécriture, à une réécriture d'un livre de contes que tout le monde connaît. Les Mille et Une Nuits, quelle place est-ce qu'il a ce livre dans votre corpus?
C'est une équation. Je me suis dit, au début, qu'est-ce qui se passe dans Les Mille et Une Nuits? Une femme raconte pour sauver sa vie.
Scheherazade.
Exactement. Et elle, finalement, elle sauve sa vie, mais sa vie propre, pas la vie des autres. Et elle épouse un serial killer à la fin. Donc, c'est quand même tragique. Donc, j'ai pensé un petit peu corriger le tir. Quelqu'un qui écrit pour sauver sa vie et la vie des autres. Et il ne pousse pas le criminel à la fin.
Si des hommes avaient fondé une religion à partir de ce livre, Les Mille et Une Nuits, quels en seraient les fondements pour vous?
J'ai lu quelque part, je crois que c'est une petite introduction d'un roman espagnol qui disait qu'il serait extraordinaire de revoir l'histoire de l'humanité où la Bible serait un roman pour enfants et Scheherazade et Les Mille et Une Nuits un livre sacré. Combien de têtes on aurait décapité pour savoir si Scheherazade était une femme ou pas, ou si le roi était Dieu ou pas. J'aime bien cet inversement de l'ordre des choses.
Ça veut dire que c'est votre religion, Les Mille et Une Nuits?
Non, je pense que c'est une religion qui fait l'éloge de la féminité. Et ça, j'y adhère.
Ce qui en tout cas fait le lien entre Zabor et Les Mille et Une Nuits, c'est que dans les deux cas, les histoires que raconte votre héros et Scheherazade ont pour même objectif de retarder la mort. C'est ça, dans les
Exactement.
Deux cas.
Retarder la mort. Mais je pense que c'est un fantasme profond chez tous les écrivains, chez tous les scribes, chez tout ce qui en fait de l'art. C'est quelque part enjamber la mort. Je meurs, mais je laisse quelque chose. Dostoïevski disparaît, les frères Karamazov sont là. Personne ne connaît Benoît de l'Alsace, mais tout le monde connaît Meursault. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Finalement, on écrit, on enjambe quelque part la mort. On ne meurt pas absolument.
Pour vous, elle est là l'origine de l'écriture, de roman?
Pas uniquement du roman. Le roman puisse son origine dans le récit, mais l'écriture puisse son souci dans cette obsession contre l'oubli. C'est-à-dire on écrit pour qu'on n'oublie pas des contes, des réserves, des récoltes, des mythes, etc. Donc il y a fondamentalement ça. Je disais que finalement, quand un empereur est très puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il grave son nom sur de la pierre. Les amoureux gravent leur nom sur des troncs d'arbres. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on fait? On exprime un besoin d'éternité et on l'expérimente même.
J'aimerais lire un passage, si vous le voulez bien, de Zabor, Kamel Daoud. Page 316. J'ai rendu visite à des malades, des agonisants, des candidats au trépas, des enfants en sueur et des femmes déchirées par un accouchement. Ma légende monta et attira l'attention du diable et du vent. Mon père en rigola jaune, ma tante en tira fierté. Mes demi-frères furent jaloux de mon royaume, mais les pauvres villageois revenaient encore et toujours vers moi, en dernier recours. J'en ai sauvé des centaines. J'ai ajouté 1001 jours presque chaque fois, rendu l'île habitable, et Paul devint flamboyant dans la nuit, phosphorescent quand il lisait. La moquerie accompagna mon don, mais je n'en avais cure. Pourquoi j'écris ? Parce que je témoigne, je suis le gardien. Je fais reculer la mort des miens, car ils sont essentiels et dignes d'éternité. Dieu écrit, moi aussi. On en est là, Kamel Daoud. L'écrivain, c'est Dieu. C'est de la mégalomanie ou c'est autre chose ?
Non, c'est peut-être la mégalomanie, mais en même temps, elle est excusable, elle est louable. Elle est, on peut en faire l'éloge. On écrit tous parce qu'on a envie de reprendre cette parole au ciel.
Cette mission de sauver vos proches d'une mort absolue par l'écriture, cette vocation hein, quasi mystique, quand est-ce qu'elle vous a été révélée ?
À l'enfance, je regardais les miens et je voyais un petit peu des gens autour de moi qui disparaissaient. Et j'étais, j'ose le mot, j'étais scandalisé. Ils meurent, mais ils meurent totalement. Ils ne laissent rien. À peine une perte en balle qui va survivre, peut-être une décennie ou deux. Je me disais que la littérature, le fait de raconter leur histoire pouvait les sauver. C'est homérique, c'est ancien, c'est grec, c'est peut-être, c'est humain. Mais cela venait de ça. Et en même temps, j'avais cette obsession de perpétuer les choses en les décrivant avec justesse. Vous savez, personne ne connaît tel endroit s'il n'est pas décrit. Donc, s'il n'est pas décrit. Donc, s'il n'est pas sauvé.
Alors, vous êtes mis à tout décrire?
À tout décrire, à chercher les mots, à multiplier les mots, les synonymies, les adverbes, la langue, à enrichir la langue, à écrire, à poursuivre des histoires, à imaginer des histoires que je ne pouvais pas acheter, ni lire, ni acquérir. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de fabuleux, mais j'emploie le mot à juste titre.
Sur des feuilles de papier ou dans votre tête ?
Sur des feuilles de papier.
Et vous les avez encore ?
Je pense pas. Je pense que j'ai gardé un petit recueil de textes qui date de mes 15 ans. Il doit être quelque part, mais je le garde toujours.
Pour Zabor, vous auriez pu écrire sur mille et une autres choses. Kamel, vous avez choisi d'écrire un livre qui parle de littérature et d'une littérature qui sauve. Qui faut-il sauver aujourd'hui ?
Le sens et la possibilité de rêvasser, de rêver. La possibilité de la fiction. Pour moi, la possibilité de roman est largement remise en cause. Vous avez cité tout à l'heure des écrivains, des créateurs qui étaient même en procès pour chasser, flageller, inquiétés, harcelés, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la possibilité de roman et de la fonction est déjà quelque chose qu'il faut défendre maintenant.
Dans Zabor, c'est son père que le narrateur tente de sauver en écrivant le livre que nous, lecteurs, tenons entre nos mains. Histoire qui se raconte en fait au nom du père. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette figure du père, Kamel Daoud, figure du patriarche que vous n'épargnez pas dans le livre et qui est centrale dans tout ce que vous écrivez ?
Pour moi, un des mythes profond et inquiétant du monothéisme, c'est le mythe d'Abraham qui égorge son fils. Je veux imaginer tous mes livres comme étant la révolte de ce fils qui ne veut pas être égorgé. Je veux faire le procès de ce père qui est capable, sur un rêve, d'égorger son fils. Je veux rééquilibrer. Je veux donner le droit de parole au fils. Je veux qu'il y ait un rapport guéri entre les deux. Un père qui veut égorger son fils, c'est un père à qui il faut tenir tête.
C'est aussi votre rapport d'enfant à votre père que vous interrogez ?
Un peu. Je pense que c'est une des grandes questions de sa propre vie. Comment subir le père et comment être père à son tour ? Je veux dire, à la fois, c'est une question de vie et de mort réellement.
Alors, quel genre de père est-ce que vous êtes, Kamel Daoud ?
Un père inquiet. Parce que je me dis, je n'ai pas demandé l'avis du fils ou de la fille qui sont venus au monde. J'ai déjà des enfants. Mais en même temps, je suis responsable des imperfections de ce monde que je vais léguer aux autres. Je me sens inquiété, je me sens coupable. Je répète souvent cette phrase et j'y tiens. J'aimerais mériter d'être un ancêtre pour mes enfants, mes arrière-petits-enfants.
En tuant le père, qu'est-ce que vous faites, en fait ? Qu'est-ce que vous dites ?
Je me libère. Ce n'est pas tuer le père, c'est l'enterrer avec respect. Je préfère cette formule.
Et si votre livre, Kamel Daoud, n'était pas tout simplement sur ce que c'est que d'être un homme ? C'est ça qui m'a inspiré, moi.
C'est possible, mais de libérer le désir en soi. C'est surtout ça aussi. Le désir, et faire coïncider le désir et le corps, la liberté et le sens. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
Mais qu'est-ce qu'un homme, pour vous ?
C'est quelqu'un qui mérite.
Je vous ai demandé de venir accompagner ce matin. Avec un texte que vous avez écrit pour l'occasion. Et j'aimerais bien que vous nous le lisiez, peut-être nous en dire deux mots avant.
Je n'ai pas deux mots avant, c'est juste que vous m'avez demandé un texte, j'ai écrit celui-ci entre autres, et c'est venu comme ça, j'ai l'impression de voler toujours mes textes quelque part.
Alors on vous écoute.
Très bien. C'est quoi votre vie d'assassiné ? Formulation brûlante d'une question exagérée que posent beaucoup de journalistes ou de curieux. Comment on vit sous une menace de mort ? questions gênantes, lourdes, un peu dérangeantes, exagérées, parfois risibles quand on compare sa vie à l'actualité des autres drames. La réponse sur la présumée vie d'assassiné, un peu moqueuse, parfois agacée, elle se résume à l'essentiel. Quand on est mort, on devient plus vigilant à la vie, extrêmement sensible au bruit, au mouvement du temps, sensuel et poreux. Le corps perdu devient un curieux corps retrouvé. Tout le sang reflue vers les sens et les siens. Chaque goût est démultiplié, comme savouré par les racines. Tous les morts le savent, jamais la vie n'est meilleure. On pèse alors la parole, le geste, parce qu'on ne veut pas faire fuir les poissons autour de soi dans l'eau de sa méditation. On devient plus concret, on s'essaye à la justesse, et l'histoire d'amour de sa vie quotidienne devient fabuleuse à cause des yeux qui vous éternisent. Jamais cela ne fut plus intense donc. Tout a été démultiplié par l'assassinat, rallumé, en feu ardent. Le corps inquiet connaît les meilleurs orgasmes. On en devient prudent et attentif à toute la vie donc, pas seulement à la sienne, c'est tout. Mais je ne réponds jamais ainsi. J'essaie de me rendre invisible et rendre invisibles mes nouvelles convictions, mon contentement précautionneux. Tout est là, le nom du tueur, la raison du crime, l'heure et le corps. Le seul mystère est comment j'ai pu garder ce pouvoir de parler malgré tout. C'est cette histoire que je veux vous raconter.
On retrouve le goût pour les romans policiers dont vous nous parliez tout à l'heure.
Tout roman mystique, religieux, épique est un roman policier. Mais on inverse l'équation. Soit on a le corps avant le nom du criminel. Parfois on a le nom du criminel avant le corps. Vous savez, pour L'étranger de Camus, sur lequel je reviens, c'est un roman policier. On a l'aveu, on a les raisons du crime, mais on n'a pas le corps.
Est-ce que c'est possible, Kamel Daoud, d'être invisible quand on s'appelle Kamel Daoud aujourd'hui?
J'espère bien. J'ai besoin d'invisibilité. J'ai besoin de me confondre. J'ai besoin de me perdre. J'ai besoin de marcher. Et c'est ce que j'ai un peu perdu, mais pas totalement.
C'est quoi votre vie d'assassiné? C'est par ce mot-là, cette question que vous entamez votre texte? On vous l'a vraiment posé, cette question?
Un peu, mais sous d'autres formes, et toujours. On me pose généralement deux questions. Comment on survit après la mort et pourquoi vous n'avez pas quitté votre pays? Donc ce sont les deux grandes questions, c'est les deux grands mystères.
Vous avez remarqué que je ne vous les ai pas posées?
Oui.
Merci infiniment, Kamel, d'être venu faire un tour dans Boomerang, Zabor, où les psaumes publiés chez Actes Sud, c'est un acte poétique d'une très grande force. Et ça nous rappelle, c'est salvateur à mon sens, le sens de la littérature. Je précise que vous serez ce samedi au Théâtre du Rond-Point à 15h en conversation avec le philosophe Raphaël Antoven. On y sera. Tout de suite, place aux médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'étais.